Chapitre 17. André de Tavernet, le feu d'artifice. Le 30 mai suivant, c'est-à-dire le surlendemain de cette effroyable nuit, comme l'avait dit Marie-Antoinette, pleine de présages et d'avertissements, Paris célébrait à son tour les fêtes du mariage de son roi futur. Toute la population, en conséquence, se dirigea vers la place Louis XV, où devait être tiré le feu d'artifice, ce complément de toute grande solennité publique que le Parisien prend en badinant, mais dont il ne peut se passer. L'emplacement était bien choisi, 600 000 spectateurs y pouvaient circuler à l'aise. Autour de la statue équestre de Louis XV, des charpentes avaient été disposées circulairement, de façon à permettre la vue du feu à tous les spectateurs de la place, en élevant ce feu de 10 à 12 pieds au-dessus du sol. Les Parisiens arrivèrent, selon leur habitude, par groupes, et cherchèrent longtemps les meilleures positions, privilèges inattaquables des premiers venus. Les enfants trouvèrent des arbres, les hommes graves des bornes, les femmes des garde-fous, des fossés et des échafaudages mobiles dressés en plein vent, par des spectateurs bohèmes comme on en trouve à toutes les fêtes parisiennes et à qui une riche imagination permet de changer de spéculation chaque jour. Vers 7 heures du soir, avec les premiers curieux, on vit arriver les premières escouades d'archers. Le service de surveillance ne se fit point par les gardes françaises, auxquelles le bureau de la ville ne voulut pas accorder la ratification de 1 000 écus demandée par le colonel maréchal duc de Biron. Ce régiment était à la fois craint et aimé de la population, près de laquelle chaque membre de ce corps passait à la fois pour un César et pour un mandrin. Les gardes françaises, terribles sur le champ de bataille, inexorables dans l'accomplissement de leurs fonctions, avaient en temps de paix et hors de service une affreuse réputation de bandits. En tenue, ils étaient beaux, vaillants, intraitables, et leurs évolutions plaisaient aux femmes et imposaient aux maris. Mais libres de la consigne, disséminés en simples particuliers dans la foule, ils devenaient la terreur de ceux dont la veille ils avaient fait l'admiration et persécutaient fort ceux qu'ils allaient protéger le lendemain. Or la ville, trouvant dans ses vieux ressentiments contre ses coureurs de nuit et ses habitués de tripot une raison de ne pas donner les 1 000 écus aux gardes françaises, la ville, disons-nous, envoya ses seuls archers bourgeois. Sous ce prétexte spécieux, du reste, que dans une fête de famille pareille à celle qui se préparait, le gardien ordinaire de la famille devait suffire. On vit alors les gardes françaises en congé se mêler au groupe dont nous avons parlé, et licencieux autant qu'ils eussent été sévères, causer dans la foule, en leur qualité de bourgeois de guérite, tous les petits désordres qu'ils eussent réprimés de la crosse, des pieds et du coude, voire même de l'arrestation, si leur chef, leur César Biron, eût eu le droit de les appeler ce soir-là soldats. Les cris des femmes, les grognements des bourgeois, les plaintes des marchands, dont on mangeait gratis les petits gâteaux et le pain d'épices, préparaient un faux tumulte avant le vrai tumulte qui devait naturellement avoir lieu quand 600 000 curieux seraient réunis sur cette place, et ils animaient la scène de manière à reproduire, vers les 8 heures du soir, sur la place Louis XV, un vaste tableau des tenirs avec des grimaces françaises. Après que les gamins parisiens, à la fois les plus pressés et les plus paresseux du monde, se furent placés ou hissés, que les bourgeois et le peuple eurent pris position, arrivèrent les voitures de la noblesse et de la finance. Aucun itinéraire n'avait été tracé. Elles débouchèrent donc, sans ordre, par les rues de la Madeleine et Saint-Honoré, amenant au bâtiment neuf ceux qui avaient reçu des invitations pour les fenêtres et les balcons du gouverneur, fenêtres et balcons d'où l'on devait voir le feu admirablement. Ceux des gens de voiture qui n'avaient pas d'invitation laissèrent leur carrosse au tournant de la place et se mêlèrent à pied, précédés de leurs valets, à la foule toute serrée déjà, mais qui laisse toujours de la place à quiconque sait la conquérir. Il était curieux de voir avec quelle sagacité ces curieux savaient dans la nuit aider leur marche ambitieuse de chaque inégalité de terrain. La rue, très large mais non encore achevée, qui devait s'appeler rue Royale, était coupée çà et là de fossés profonds au bord desquels on avait entassé des décombres et des terres de fouilles. Chacune de ces petites éminences avait son groupe, pareil à un flot élevé au milieu de cette mer humaine. De temps en temps, le flot, poussé par d'autres flots, s'écroulait au milieu des rires de la multitude, encore assez peu pressée pour qu'il n'y eût point de danger à de pareilles chutes et pour que ceux qui étaient tombés pussent se relever. Vers 8h30, tous les regards, divergents jusque-là, commencèrent à se braquer dans la même direction et se fixèrent sur la charpente du feu d'artifice. Ce fut alors que les coudes, jouant sans relâche, commencèrent à maintenir sérieusement l'intégrité de la possession du terrain contre les envahisseurs sans cesse renaissants. Ce feu d'artifice, combiné par Ruggieri, était destiné à rivaliser, rivalité que l'orage de la surveille avait rendue facile, était destiné à rivaliser, disons-nous, avec le feu d'artifice exécuté à Versailles par l'ingénieur Torré. On savait à Paris que l'on avait peu profité à Versailles de la libéralité royale qui avait accordé 50 000 livres pour ce feu, puisque, aux premières fusées, ce feu avait été éteint par la pluie. Et comme le temps était beau, le soir du 30 mai, les Parisiens jouissaient d'avance de leur triomphe assuré sur leurs voisins les Versaillais. D'ailleurs, Paris attendait beaucoup mieux de la vieille popularité de Ruggieri que de la nouvelle réputation de Torré. Au reste, le plan de Ruggieri, moins capricieux et moins vague que celui de son confrère, accusait des intentions pyrotechniques d'un ordre tout à fait distingué. L'allégorie, reine de cette époque, s'y mariait au style architectonique le plus gracieux. La charpente figurait ce vieux temple de l'hymen qui, chez les Français, rivalise de jeunesse avec le temple de la gloire. Il était soutenu par une colonnade gigantesque et entouré d'un parapet aux angles duquel des dauphins, gueules béantes, n'attendaient que le signal pour vomir des torrents de flammes. En face des dauphins s'élevaient, majestueux et guindés sur leurs urnes, la Loire, le Rhône, la Seine et le Rhin, ce fleuve que nous nous obstinons à naturaliser français malgré tout le monde, et s'il faut en croire les chants modernes de nos amis les Allemands malgré lui-même. Tous quatre, nous parlons des fleuves, tous quatre, disons-nous, prêts à épancher, au lieu de leurs eaux, le feu blanc, bleu, vert et rose, au moment où devait s'enflammer la colonnade. D'autres pièces d'artifice, s'embrasant aussi au même instant, devaient former de gigantesques pots à fleurs sur la terrasse du palais de l'hymen. Enfin, toujours sur ce même palais, destiné à porter tant de choses différentes, s'élevait une pyramide lumineuse terminée par le globe du monde. Ce globe, après avoir fulguré sourdement, devait éclater comme un tonnerre en une masse de girandoles de couleurs. Quant au bouquet, réserve obligatoire et si importante que jamais Parisien ne juge d'un feu d'artifice que par le bouquet, Ruggieri l'avait séparé du corps de la machine. Il était placé du côté de la rivière, après la statue, dans un bastion tout bourré de pièces de rechange, de sorte que le coup d'œil devait gagner encore à cette surélévation de 3 à 4 toises qui plaçait le pied de la gerbe sur un piédestal. Voilà les détails dont se préoccupait Paris. Depuis 15 jours, les Parisiens regardaient avec beaucoup d'admiration Ruggieri et ses aides, passant comme des ombres dans les lueurs funèbres de leurs échafaudages et s'arrêtant avec des gestes étranges pour rattacher leurs mèches, assurer leurs amorces. Aussi, le moment où les lanternes furent apportées sur la terrasse de la charpente, un moment qui indiquait l'approche de l'embrasement, produisit-il une vive sensation dans la foule et quelques rangs des plus intrépides reculèrent-ils, ce qui produisit une longue oscillation jusqu'aux extrémités de la foule. Les voitures continuaient d'arriver et commençaient à envahir la place elle-même. Les chevaux appuyaient leur tête sur les épaules des derniers spectateurs qui commençaient à s'inquiéter de ces dangereux voisins. Bientôt, derrière les voitures, s'amassa la foule, toujours croissante, de sorte que les voitures, eussent-elles voulu se retirer elles-mêmes, ne le pouvaient plus. emboîtée qu'elle se trouvait par cette inondation compacte et tumultueuse. Alors on vit avec cette audace du Parisien qui envahit, laquelle n'a de pendant que la longanimité du Parisien qui se laisse envahir, alors on vit monter sur ces impériales comme des naufragés sur des rocs et des gardes françaises, des ouvriers, des laquais. L'illumination des boulevards jetait de loin sa lueur rouge sur les têtes des milliers de curieux, au milieu desquels la baïonnette d'un archer bourgeois, scintillante comme l'éclair, apparaissait aussi rare que le sont les épis restés debout dans un champ que l'on vient de faucher. Au flanc des bâtiments neufs, aujourd'hui l'hôtel Crillon et le garde-meuble de la Couronne, les voitures des invités, au milieu desquelles on avait pris la précaution de ménager aucun passage, les voitures des invités, disons-nous, avaient formé trois rangs qui s'étendaient d'un côté du boulevard aux Tuileries, de l'autre du boulevard à la rue des Champs-Élysées, en tournant comme un serpent trois fois plié sur lui-même. Le long de ce triple rang de carrosses, on voyait errer comme des spectres au bord du Styx ceux des conviés que les voitures de leurs prédécesseurs empêchaient d'aborder à la grande porte et qui, étourdis par le bruit, craignant de fouler, surtout les femmes tout habillées et chaussées de satin, ce pavé poudreux, se heurtaient au flot du peuple qui les raillait sur leur délicatesse et cherchaient un passage entre les roues des voitures et les pieds de chevaux, se glissaient comme ils pouvaient jusqu'à leur destination, but aussi envié que l'est le port dans une tempête. Un de ces carrosses arriva vers 9 heures, c'est-à-dire quelques minutes à peine avant l'heure fixée, pour mettre le feu à l'artifice, pour se frayer à son tour un passage jusqu'à la porte du gouverneur. Mais cette prétention, déjà si disputée depuis quelque temps, était à ce moment devenu au moins téméraire, sinon impossible. Un quatrième rang avait commencé de se former, renforçant les trois premiers, et les chevaux qui en faisaient partie, tourmentés par la foule de fringants devenus furieux, lançaient à droite et à gauche, à la moindre irritation, des coups de pied qui avaient déjà produit quelques accidents perdus dans le bruit et dans la foule. Accroché au ressort de cette voiture qui venait de frayer son chemin dans la foule, un jeune homme marchait, éloignant tous les survenants qui essayaient de s'emparer de ce bénéfice d'une locomotive qu'il semblait avoir confisquée à son profit. Quand le carrosse s'arrêta, le jeune homme se jeta de côté, mais sans lâcher le ressort protecteur auquel il continua de se cramponner d'une main. Il put donc entendre par la portière ouverte la conversation animée des maîtres de la voiture. Une tête de femme vêtue de blanc et coiffée avec quelques fleurs naturelles se pencha hors de la portière. Aussitôt, une voix lui cria « Voyons, André, provincial que vous êtes, ne vous penchez pas ainsi, ou, mordieu, vous risquez d'être embrassé par le premier rustre qui passera !» Ne voyez-vous pas que notre carrosse est au milieu de ce peuple comme il serait au milieu de la rivière? Nous sommes dans l'eau, ma chère, et dans l'eau sale, ne nous mouillons pas. » La tête de la jeune fille rentra dans la voiture. « C'est qu'on ne voit rien d'ici, monsieur, dit-elle. Si seulement nos chevaux pouvaient faire un demi-tour, nous verrions par la portière et nous serions presque aussi bien qu'à la fenêtre du gouverneur. « Tournez, cocher, cria le baron. « C'est chose impossible, monsieur le baron, répondit celui-ci, il me faudrait écraser 10 personnes. »« Eh, pardieu, écraser !»« Oh, monsieur, dit André, oh, mon père, dit Philippe, qu'est-ce que c'est que ce baron-là qui veut écraser le pauvre monde ?» crièrent quelques voix menaçantes. « Parbleu, c'est moi !» dit de Tavernet, qui se pencha et, en se penchant, montra un grand cordon rouge en sautoir. Dans ce temps-là, on respectait encore les grands cordons, même les grands cordons rouges. On grommela, mais sur une gamme descendante. « Attendez, mon père, je vais descendre, dit Philippe, et voir s'il y a moyen de passer. « Prenez garde, mon frère, vous allez vous faire tuer. Entendez-vous les hennissements des chevaux qui se battent ?»« Vous pouvez bien dire des rugissements, reprit le baron. Voyons, nous allons descendre. Dites qu'on se dérange, monsieur, et que nous passions. » Ah, vous ne connaissez plus Paris, mon père, dit Philippe. Ses façons de maître étaient bonnes autrefois, mais aujourd'hui, peut-être bien pourrait-elle ne point réussir, et vous ne voudriez point compromettre votre dignité, n'est-ce pas? Cependant, quand ces drôles sauront qui je suis, mon père, dit en souriant Philippe, quand vous seriez le dauphin lui-même, on ne se dérangerait pas pour vous, j'en ai bien peur, et en ce moment surtout, car voilà le feu d'artifice qui va commencer. Alors nous ne verrons rien, dit André avec humeur. C'est votre faute, pardieu, répondit le baron, vous avez mis plus de 2 heures à votre toilette. Mon frère, dit André, ne pourrais-je prendre votre bras et me placer avec vous au milieu de tout le monde? Oui, oui, ma petite dame, dirent plusieurs voix d'hommes touchés par la beauté d'André. Oui, venez, vous n'êtes pas grosse, on vous fera une place. Voulez-vous, André? Demanda Philippe. Je veux bien, dit André. Et elle s'élança légèrement sans toucher le marchepied de la voiture. Soit, dit le baron, mais moi qui me moque des feux d'artifice, moi, je reste ici. Bien, restez, dit Philippe, nous ne nous éloignons pas, mon père. En effet, la foule, toujours respectueuse quand aucune passion ne l'hérite, toujours respectueuse devant cette reine suprême qu'on appelle la beauté, la foule s'ouvrit devant André et son frère, et un bon bourgeois, possesseur avec sa famille d'un banc de pierre, fit écarter sa femme et sa fille pour qu'André trouvât une place entre elles. Philippe se plaça au pied de sa sœur, qui appuya une de ses mains sur son épaule. Gilbert les avait suivis et placé à 4 pas des 2 jeunes gens, dévorait des yeux André. « Êtes-vous bien, André ? » demanda Philippe. « À merveille, » répondit la jeune fille. « Voilà ce que c'est que d'être belle, » dit en souriant le vicomte. « Oh oui, belle, bien belle, » murmura Gilbert. André entendit ces paroles, mais comme elles venaient sans doute de la bouche de quelque homme du peuple, elle ne s'en préoccupa plus qu'un dieu de l'Inde ne se préoccupe de l'hommage que dépose à ses pieds un pauvre paria. André et son frère étaient à peine établis sur le banc que les premières fusées serpentèrent dans les nuages et qu'un grand cri s'éleva de la foule, désormais tout entière au coup d'œil qu'allait offrir le centre de la place. Le commencement de l'embrasement fut magnifique et digne en tout de la haute réputation de Ruggieri. La décoration du temple s'alluma progressivement et présenta bientôt une façade de feu. Des applaudissements retentirent, mais ces applaudissements se changèrent bientôt en bravos frénétiques lorsque, de la gueule des dauphins et des urnes des fleuves, s'élancèrent des jets de flammes qui croisèrent leurs cascades de feu de différentes couleurs. André, transporté d'étonnement à la vue de ce spectacle qui n'a pas d'équivalent au monde, celui d'une population de 700 000 âmes rugissant de joie en face d'un palais de flammes, André ne cherchait pas même à cacher ses impressions. À 3 pas d'elle, caché par les épaules herculéennes d'un portefaix qui élevait en l'air son enfant, Gilbert regardait André pour elle et le feu d'artifice parce qu'elle le regardait. Gilbert voyait André de profil. Chaque fusée éclairait ce beau visage et causait un tressaillement au jeune homme. Il lui semblait que l'admiration générale naissait de cette contemplation adorable de cette créature divine qui l'idolâtrait. André n'avait jamais vu ni Paris, ni la foule, ni les splendeurs d'une fête. Cette multiplicité de révélations qui venait assiéger son esprit l'étourdissait. Tout à coup, une vive lueur éclata, s'élançant en diagonale du côté de la rivière. C'était une bombe éclatante avec fracas et dont André admirait les feux diversifiés. « Voyez donc, Philippe, que c'est beau !» dit-elle. « Mon Dieu !» s'écria le jeune homme, inquiet, sans lui répondre. « Cette dernière fusée est bien mal dirigée. Elle a dévié certainement de sa route, car au lieu de décrire sa parabole, elle s'est échappée presque horizontalement. » Philippe achevait à peine de manifester une inquiétude qui commençait à se faire ressentir dans les frémissements de la foule qu'un tourbillon de flammes jaillit du bastion sur lequel étaient placés le bouquet et la réserve des artifices. un bruit pareil à celui de 100 tonnerres se croisant en tous sens gronda sur la place, et comme si ce feu eût renfermé une mitraille dévorante, il mit en déroute les curieux les plus rapprochés, qui sentirent un instant cette flamme inattendue les mordre au visage. « Déjà le bouquet, déjà le bouquet !» criaient les spectateurs les plus éloignés. « Pas encore, c'est trop tôt !»«
Déjà ?» répéta André.
« Oui, oui, c'est trop tôt !»« Non, dit Philippe, non, ce n'est pas le bouquet, c'est un accident qui, dans un moment, va bouleverser comme les flots de la mer cette foule encore calme. Venez, André, regagnons notre voiture, venez !»«
Oh, laissez-moi voir encore, Philippe, c'est si beau !»
André, pas un instant à perdre, au contraire, suivez-moi. C'est le malheur que j'appréhendais. Une fusée perdue a mis le feu au bastion. On s'écrase déjà là-bas. Entendez-vous ces cris? Ceux-là ne sont plus des cris de joie, mais des cris de détresse. Vite, vite à la voiture. Messieurs, messieurs, place, s'il vous plaît. Et Philippe, passant son bras autour de la taille de sa sœur, l'entraîna du côté de son père, qui, inquiet lui aussi, et pressentant aux clameurs qui se faisaient entendre un danger dont il ne pouvait se rendre compte, mais dont la présence lui était démontrée, penchait sa tête hors de la portière et cherchait des yeux ses enfants. Il était trop tard, et la prédiction de Philippe se réalisait. Le bouquet, composé de 15 000 fusées, éclatait, s'échappant dans toutes les directions et poursuivant les curieux comme ces dards de feu que l'on lance dans l'arène aux taureaux que l'on veut exciter au combat. Les spectateurs, étonnés d'abord, puis effrayés, avaient reculé avec la force de l'irréflexion. Devant cette rétrogression invincible de 100 000 personnes, 100 000 autres, étouffés, avaient donné le même mouvement à leur arrière-garde. La charpente prenait feu, les enfants criaient, les femmes suffoquées levaient les bras. Les archers frappaient à droite et à gauche, croyant faire taire les criards et rétablir l'ordre par la violence. Toutes ces causes combinées firent que le flot dont parlait Philippe tomba comme une trombe sur le coin de la place qu'il occupait. Au lieu de rejoindre la voiture du baron comme il y comptait, le jeune homme fut donc entraîné par le courant, courant irrésistible et dont nulle description ne saurait donner une idée, car les forces individuelles, décuplées déjà par la peur et la douleur, se centuplaient par l'adjonction des forces générales. Au moment où Philippe avait entraîné André, Gilbert s'était laissé aller dans le flot qui les emportait. Mais au bout d'une vingtaine de pas, une bande de fouillards qui tournait à gauche dans la rue de la Madeleine souleva Gilbert et l'entraîna, tout rugissant, de se sentir séparé d'André. André, cramponné au bras de Philippe, fut englobé dans un groupe qui cherchait à éviter la rencontre d'un carrosse attelé de 2 chevaux furieux. Philippe le vit venir à lui, rapide et menaçant. Les chevaux semblaient jeter le feu par les yeux, l'écume par les naseaux. Il fit des efforts surhumains pour dévier de son passage, mais tout fut inutile. Il vit s'ouvrir la foule derrière lui. Il aperçut les têtes fumantes des 2 animaux insensés. Il les vit se cabrer comme ces chevaux de marbre qui gardent l'entrée des Tuileries et comme l'esclave qui essaye de les dompter. Lâchant le bras d'André et la repoussant autant qu'il était en lui hors de la voie dangereuse, il sauta au mors du cheval qui se trouvait de son côté. Le cheval se cabra. André vit son frère retomber, fléchir et disparaître. Elle jeta un cri, étendit les bras, fut repoussée, tournoya et au bout d'un instant se trouva seule, chancelante, emportée comme la plume au vent, sans pouvoir faire à la force qui l'attirait plus de résistance qu'elle. Des cris assourdissants, bien plus terribles que des cris de guerre, des hennissements des chevaux, un bruit affreux de roues qui tantôt broyaient le pavé, tantôt les cadavres, le feu livide des charpentes qui brûlaient, l'éclair sinistre des sabres qu'avaient tirés quelques soldats furieux, et par-dessus tout ce sanglant chaos, la statue en bronze, éclairée de fauves reflets et présidant au carnage, c'était plus qu'il n'en fallait pour troubler la raison d'André et lui enlever toutes ses forces. D'ailleurs, les forces d'un titan eussent été impuissantes dans une pareille lutte d'un seul contre tous, plus la mort. André poussa un cri déchirant. Un soldat s'ouvrit un passage en frappant la foule de son épée. L'épée avait brillé au-dessus de sa tête.
Elle joignit les mains comme fait le naufragé quand passe la dernière vague sur son front, cria « Mon Dieu !» et tomba. Lorsqu'on tombait, on était mort. Mais ce cri terrible, suprême, quelqu'un l'avait entendu, reconnu, recueilli. Gilbert, entraîné loin d'André à force de lutter, s'était rapproché d'elle. Courbé sous le même flot qui avait englouti André, il se releva, sauta sur cette épée qui, machinalement, avait menacé André, étreignit à la gorge le soldat qui allait frapper, le renversa. Près du soldat était étendue une jeune femme vêtue d'une robe blanche. Il la saisit, l'enleva comme eût fait un géant. Lorsqu'il sentit sur son cœur cette forme, cette beauté, ce cadavre peut-être, un éclair d'orgueil illumina son visage. Le sublime de la situation, lui, le sublime de la force et du courage. Il se lança avec son fardeau dans un courant d'hommes dont le torrent eut certes enfoncé un mur en fuyant. Ce groupe le soutint, le porta, lui et la jeune fille. Il marcha, ou plutôt il roula ainsi, durant quelques minutes. Tout à coup le torrent s'arrêta, comme brisé par quelque obstacle. Les pieds de Gilbert touchèrent la terre. Alors seulement il sentit le poids d'André, leva la tête pour se rendre compte de l'obstacle et se vit à trois pas du garde-meuble. Cette masse de pierre avait broyé la masse de chair. Pendant ce moment de halte anxieuse, il eut le temps de contempler André, endormi d'un sommeil épais comme la mort. Le cœur ne battait plus, les yeux étaient fermés, le visage était violacé comme une rose qui se fane. Gilbert la crut morte. À son tour, il poussa un cri, appuya ses lèvres sur la robe d'abord, puis sur la main, puis, s'enhardissant par l'insensibilité, il dévora de baisers ce visage froid, ses yeux gonflés sous les paupières clouées. Il rougit, pleura, rugit, essaya de faire passer son âme dans la poitrine d'André, s'étonnant que ces baisers, qui eussent échauffé un marbre, fussent sans force sur ce cadavre. Soudain, Gilbert sentit le cœur battre sous sa main. « Elle est sauvée !» s'écria-t-il en voyant fuir cette tourbe noire et sanglante, en écoutant les imprécations, les cris, les soupirs, l'agonie des victimes. « Elle est sauvée, c'est moi qui l'ai sauvée !» Le malheureux, le dos appuyé à la muraille, les yeux fixés vers le pont, n'avait pas regardé à sa droite. À sa droite, devant les carrosses, arrêtés longtemps par les masses, mais qui, moins serrés enfin dans leur étreinte, commençaient à s'ébranler, à droite, devant les carrosses, galopant bientôt comme si cochers et chevaux eussent été pris d'un vertige général, fuyaient 20 000 malheureux, mutilés, atteints, broyés les uns par les autres. Instinctivement, ils longeaient les murailles contre lesquelles les plus proches étaient écrasés. Cette masse entraînait ou étouffait tous ceux qui, ayant pris terre auprès du garde-meuble, se croyaient échappés au naufrage. Un nouveau déluge de coups, de corps, de cadavres inonda Gilbert. Il trouva des renfoncements produits par les grilles et s'y appliqua. Le poids des fuyards fit craquer ce mur. Gilbert, étouffé, se sentit prêt à lâcher prise, mais réunissant toutes ses forces par un suprême effort, il entoura le corps d'André de ses bras, appuyant sa tête contre la poitrine de la jeune fille. On eût dit qu'il voulait étouffer celle qu'il protégeait. « Adieu, adieu » murmura-t-il en mordant sa robe plutôt qu'il ne l'embrassait. « Adieu !» Puis il releva les yeux pour l'implorer d'un dernier regard. Alors une vision étrange s'offrit à ses yeux. C'était, debout sur une borne, accroché de la main droite à un anneau scellé dans la muraille, tandis que de la main gauche, il semblait allier une armée de fugitifs, c'était un homme, qui, voyant passer toute cette mer furieuse à ses pieds, tantôt lançait une parole, tantôt faisait un geste. À cette parole, à ce geste, on voyait alors parmi la foule quelque individu isolé, s'arrêtant, faisant un effort, luttant, se cramponnant pour arriver jusqu'à cet homme. D'autres, arrivés à lui, semblaient dans les nouveaux venus reconnaître des frères, et ces frères, ils les aidaient à se tirer de la foule, les soulevant, les soutenant, les attirant à eux. Ainsi déjà ce noyau d'hommes luttant avec ensemble, pareil à la pile d'un pont qui divise l'eau, était parvenu à diviser la foule et à tenir en échec les masses des fugitifs. À chaque instant, de nouveaux lutteurs qui semblaient sortir de dessous terre à ces mots étranges prononcés, à ces singuliers gestes répétés, venaient faire cortège à cet homme. Gilbert se souleva par un dernier effort. Il sentait que là était le salut, car là était le calme et la puissance. Un dernier rayon de la flamme des charpentes, se ravivant pour mourir, éclaira le visage de cet homme. Gilbert jeta un cri de surprise. « Oh, que je meure !» murmura-t-il. « Mais qu'elle vive ! Cet homme a le pouvoir de la sauver !» Et alors, dans un état d'abnégation sublime, soulevant la jeune fille sur ses deux poings, « Monsieur le baron Balsamo » cria-t-il, « sauvez mademoiselle Andrée de Tavernet !» Balsamo entendit cette voix, et qui, comme celle de la Bible, criait des profondeurs de la foule, il vit se lever au-dessus de cette onde dévorante une forme blanche. Son cortège bouleversa tout ce qui lui faisait obstacle, et, saisissant André, que soutenaient encore les bras défaillants de Gilbert, il la prit, et, poussé par un mouvement de cette foule qu'il avait cessé de contenir, il l'emporta sans avoir le temps de détourner la tête. Gilbert voulut articuler un dernier mot. Peut-être, après avoir imploré la protection de cet homme étrange pour André, voulait-il la demander pour lui-même, mais il n'eut que la force de coller ses lèvres au bras pendant de la jeune fille et d'arracher de sa main crispée un morceau de la robe de cette nouvelle Eurydice que lui arrachait l'enfer. Après ce baiser suprême, après ce dernier adieu, le jeune homme n'avait plus qu'à mourir. Aussi n'essaya-t-il pas de lutter plus longtemps, il ferma les yeux et, mourant, tomba sur un monceau de morts.